mont Sinaï, que l'on connaît bien, eh bien, il va voir un buisson qui brûle sans se consumer. Et il va avoir cette attitude de curiosité et de s'approcher de ce buisson, alors que c'était un phénomène assez courant en ce temps-là. Et là, Dieu va se révéler à Moïse et va lui dire ses premières paroles, les premières paroles que Dieu a eues pour Moïse, un homme brisé. C'est les paroles suivantes. « N'approche pas d'ici, ôte tes sandales de tes pieds, car l'endroit sur lequel tu te tiens est une terre sainte. » Amen. Nous sommes dans une société où bien des valeurs sont chamboulées. Nous sommes dans une société où les repères, les fondations sont bien souvent sapés. Depuis quelques années, nous voyons, tant pis, il ne tombera pas plus bas. Depuis des années, nous voyons ce phénomène qui s'accentue. Et je pense que ce phénomène a vocation, ça vous choque peut-être d'avoir une Bible par terre, donc je vais la remettre en place. Voilà. Elle a vécu. C'est un sentiment, c'est un phénomène qui peut, eh bien, se produire également dans nos cœurs et dans nos vies. Et ce qui m'a profondément touché lorsque j'ai relu ce texte pour la énième fois, c'est le contexte dans lequel cela se passe. Si j'avais été à la place de Dieu et que j'avais eu à parler à un homme tel que Moïse, je lui aurais dit « Moïse, Dieu t'aime. Moïse, Dieu veut te restaurer. Moïse, Dieu veut te changer. Tu sais, Moïse, Dieu a un plan de secours pour toi et ce plan, il est ô combien plus glorieux que ce que tu ne peux penser. » Moïse, Dieu a des promesses pour toi, tu vas être un grand chef, eh bien religieux, un grand chef, même politique, et tu verras que eh bien, tu vas faire des choses extraordinaires, mais simplement, eh bien, viens à moi. Non. Dieu n'a pas du tout agi ainsi avec Moïse. Il lui a dit la chose suivante, ôte tes sandales. Les sandales signifient bien souvent les résistances que l'on peut avoir. Ôte tes sandales, car tu te tiens devant l'Éternel. Les premières paroles de Moïse que Dieu adresse à Moïse sont basées sur la sainteté de Dieu. Et sont basées sur le fait que Moïse, eh bien, doit quelque part, eh bien, craindre la révélation qui est devant lui. Dans nos prédications, dans nos messages, dans notre compréhension de l'Écriture, on a souvent mis l'emphase sur la grâce et sur l'amour de Dieu. Et c'est bien de le faire, parce que Dieu est amour. Dieu reste amour et Dieu a choisi eh bien, de nous manifester ses bontés, ses grâces afin de nous pousser à la repentance. Mais pourtant, en l'occurrence, Dieu va convaincre Moïse de cette réalité et va le remettre sur la voie de son plan au travers de cette notion « Je suis un Dieu saint ». Mon frère, ma sœur, j'ai une simple question à poser, et ce sera la trame de notre réflexion de ce matin. Où en es-tu avec la crainte de Dieu ? Où en es-tu avec la crainte de Dieu ? Crainte de Dieu, c'est une nécessité. Elle est présente notamment dans l'Ancien Testament, mais également dans le Nouveau. Ça veut dire quoi, craindre Dieu ? Une définition sommaire et simple, c'est... Crainte de Dieu, c'est une notion proche d'un profond respect. Elle n'a rien à voir avec la peur que peut inspirer une personne, mais elle est fondée sur l'admiration de ce qu'une personne a pu faire. Et je me dis que l'œuvre de Dieu, elle est profondément admirable. Il m'est arrivé de rencontrer des hommes de Dieu que je respectais, de par eh bien, ce qui émanait d'eux et de par le travail qu'ils avaient pu faire. Dans le monde séculier, il y a des gens que l'on respecte d'une manière tout à fait naturelle, de par, j'allais dire, le charisme qui émane d'eux. Je me souviens de mon PDG, je n'avais pas envie de lui taper derrière l'épaule, pas simplement parce qu'il avait un titre, mais parce que c'était un homme qui était profondément charismatique et qui avait une réussite tout à fait remarquable, en venant de pas grand-chose. Eh bien, la crainte de Dieu que l'on doit avoir, ce n'est pas celle, eh bien, ça ne doit pas être une peur panique, en disant, mais Dieu est un Dieu saint, et j'ai peur de lui, j'ai peur du châtiment, j'ai peur qu'il me tape sur les doigts. Entre parenthèses, un petit peu la relation que l'on peut avoir avec notre Père charnel. Parfois, nous avons une relation au Père sur cette terre qui impacte notre relation avec Dieu. Quand notre Père a eu quelques travers sur cette terre, on le transfère automatiquement sur Dieu, sans même s'en rendre compte. Ce qui n'est pas juste, mais ce qui est terriblement logique, psychologiquement parlant. Et craindre Dieu, c'est respecter son œuvre, c'est respecter sa personne. C'est en quelque sorte lui vouer de l'admiration. Où en es-tu avec la crainte de Dieu ? Pourquoi craindre Dieu ? La première chose, et vous allez me dire que c'est une lapalissade, mais c'est tout simplement parce que Dieu est saint. La sainteté de Dieu, c'est la perfection, mais c'est même plus que ça. C'est le fait que Dieu ne supporte pas le péché. Il ne peut en aucun cas tolérer le péché dans une vie. Ce qui nous pose un grand problème à nous qui sommes des bipèdes, c'est que nous sommes nés dans le péché. Nous sommes nés dans l'iniquité. Et nous le savons, nous qui avons accepté Jésus comme notre seul et unique sauveur, c'est qu'à partir du moment où je viens devant Dieu avec mon péché, à partir du moment où je m'approche de Jésus en lui présentant mon péché, en lui disant « Seigneur, j'ai besoin de toi parce que je suis un pécheur, parce que ma vie est par terre, parce que mes actes me dégoûtent, parce que les fruits que je porte ne sont pas à ta gloire. » Et que je le fais en croyant de tout mon cœur que Jésus est mort sur la croix pour le porter, alors il se passe un truc de malade, un truc de fou, un truc qui n'est pas compréhensible selon l'intelligence humaine, c'est que automatiquement, ma vie est recouverte du sang de l'agneau et que Dieu me voit pur. Dieu me voit saint. Il ne me voit pas parfait, mais il me voit saint. Il ne faut pas se tromper. Je le partageais en quelques mots avec les jeunes hier. À force de mettre l'emphase sur la grâce, qui est bien, on en oublie le fait que Dieu est Dieu. Et en réfléchissant, je me suis dit une chose, Jésus est notre frère. Il n'a pas eu honte de nous appeler frères. Il dit même que nous sommes ses amis. C'est bien. Mais Dieu reste le Père. Dieu reste Dieu. Et Dieu est profondément saint. Mais ce n'est pas une sainteté qui nous écrase et qui nous sclérose. Prenez Ésaïe 6, la conversion, on peut dire, ou la révélation de Dieu à Ésaïe. Il va contempler la sainteté de Dieu. Il va contempler la personne de Dieu. Et ça va produire deux choses. La première, c'est qu'il va dire ces paroles extraordinaires. « Je suis un homme dont les lèvres sont impures, au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. » Sous-entendu, « Au secours, je vais mourir parce que mes yeux ont vu le Dieu très saint. » Alors un ange va venir et va toucher ses lèvres avec un charbon ardent. Et la première réaction d'Ésaïe, c'est de dire « Attention, gare à moi. » parce que ma vie, elle n'est pas belle. Et la seconde réaction d'Ésaïe, c'est de répondre à l'appel de Dieu lorsque celui-ci dira « Qui enverrai-je ? » Et de manière très automatique et très naturelle, ayant contemplé la sainteté de Dieu, Ésaïe va répondre « Envoie-moi. » La crainte que l'on a de Dieu, ce n'est pas celle qui nous paralyse, mais c'est celle qui nous fait agir. Ce n'est pas celle que l'on peut avoir devant un serpent qui nous tétanise. Ce n'est pas celle que l'on doit avoir devant deux chiens qui sont là et qui menacent de nous prendre et nous, on est complètement bloqué par nos peurs. Mais en contemplant et en prenant conscience de la sainteté de Dieu, alors il se passe quelque chose. C'est qu'on aspire à être un délivré de ce qui est impur en nous et de servir Dieu. Et si je retourne la boucle Eh bien, on peut penser que si jamais, parfois, j'ai du mal à lutter contre mon péché, ou que je tolère parfois du péché dans ma vie, et que j'ai parfois du mal à m'investir, à servir mon Dieu, c'est peut-être parce que j'ai perdu la crainte de Dieu. Vous savez, Ananias et Saphira, ils ont expérimenté à quel point la sainteté de Dieu était redoutable. Certains commentateurs pensent qu'ils ont provoqué Dieu. Je ne pense pas à titre personnel. Je pense que leur exemple est là pour nous montrer qu'un simple mensonge est un péché qui offense la sainteté de Dieu. Et mon frère, ma sœur, toi bien une chose. C'est que craindre Dieu, respecter l'œuvre de Dieu, admirer l'œuvre de Dieu, ça pousse à agir. Ça pousse à changer. Ça pousse à laisser le Saint-Esprit œuvrer en nous. Lorsque l'on prend conscience de l'écart qu'il y a entre notre personne et la personne de Dieu, alors, un petit peu comme Ésaïe, on se jette à genoux et puis on dit « Mais change-moi, Seigneur ! Transforme-moi, Seigneur ! Fais une œuvre en moi ! Mais c'est pas possible qu'un Dieu aussi parfait que toi, que le Dieu créateur du ciel et de la terre, ait pu faire une œuvre aussi extraordinaire et puisse m'accepter. Je ne peux pas rester comme ça. Je ne peux pas rester comme ça. Seigneur, je ne supporte plus mes failles, je ne supporte plus mes faiblesses, je ne supporte plus ce que je suis, je ne supporte plus mon péché, je ne supporte plus mes traits de caractère, je ne supporte plus mes emportements, je ne supporte plus cette dépendance au cannabis qu'il peut y avoir dans ma vie, je ne supporte plus cette dépendance à la pornographie qu'il peut y avoir dans ma vie. Et tout ça, ce n'est pas une valeur morale, mais c'est une valeur spirituelle. Je ne suis pas confronté à la morale de Dieu, mais je suis confronté à la personne de Dieu. Et là, tout change. Parce que dans ces cas-là, plus rien en moi n'est debout. Plus rien en moi n'est debout parce que je me rends compte que finalement, je ne suis pas grand-chose. La grâce est une bonne chose. Et elle est nécessaire. Et il est nécessaire que la grâce soit dans notre vie. Mais n'oublions jamais le second pied. C'est que la grâce a été nécessaire parce que Dieu est saint. J'ai vocation à craindre, c'est-à-dire à respecter mon Dieu. Et que ce sentiment me fera aller de l'avant, que ce soit dans ma vie personnelle, que ce soit dans mon témoignage et dans mon service. As-tu conscience que Dieu est saint ? Ou Dieu est-il ton copain ? Tu sais, le gars, tu vas lui taper dans le dos en lui disant « Seigneur, tu pourrais me bénir quand même. » Alors on ne l'avouera jamais comme ça. Mais en réalité, et là on arrive sur le deuxième point qui est un petit peu plus profond et un petit peu plus ambigu, c'est que la crainte de Dieu vient du fait que Dieu est Père. Et donc que nous sommes dans une relation entre lui et nous. Alors, parce que Dieu est notre Père, on a plein de droits. On connaît bien ce passage de l'évangile de Matthieu qui dit que, puisque Dieu est notre Père, il s'occupera de nous, comme il s'occupe du lys des champs et du moineau des passereaux qui sont destinés à être livrés. On est certain, parce que Dieu est Père, et on le lui rappelle, de pouvoir bénéficier de son amour, d'un Père parfait. On est certain qu'il pourvoira pour nous, qu'il nous donnera la manne, parce que Dieu est Père. Et c'est vrai, on a raison de le croire. On a raison, vous le croyez ? Dieu est votre Père ? Il pourvoira toujours ? Donc vous devez toujours l'écouter. Mais le respecter. Vous êtes tombé dans le piège. Il était gros celui-là pourtant. Puisque Dieu est votre Père. Il y a un rapport d'autorité, qu'on le veuille, entre lui et nous. Et il est automatique ce rapport d'autorité. Nous restons des enfants, nous restons ses enfants. Et de manière assez schématique, il décide et nous agissons. Et nous agissons parce que nous l'aimons et nous agissons parce que nous savons que le Père a toujours raison. C'est très schématique. Ça va peut-être heurter certaines sensibilités, mais je m'en excuse même pas. Dans le livre de Malachie, au chapitre 1er, au verset 6, il est dit la chose suivante. « Un fils honore son père et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû ? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi ? Dit l'Éternel des armées à vous, sacrificateurs. » Et je vous rappelle ce texte de l'Apocalypse qui dit que nous sommes sacrificateurs pour Dieu le Père. Facile. Là, ce que Dieu veut, ce n'est pas simplement des déclarations d'intention, mais la question concrète que Dieu pose à son peuple et que peut-être Dieu pose à ma propre vie, c'est la suivante, c'est de dire, est-ce que tes actes sont à la hauteur de tes mots ? La réponse est, c'est parfois complètement impossible. Pour moi, je me la suis posée, je me suis dit, Seigneur, je te demande pardon, mais c'est impossible. Alors, je me suis posé une seconde question. Est-ce que mes intentions, est-ce que mon vouloir est à la hauteur de mes mots ? Est-ce que ma volonté d'honorer le Père est à la hauteur des mots et de la relation que je désire avec lui ? J'ai répondu. Et même si pour toi, la réponse est non, en disant, je sais qu'il y a un Dieu. Mais Seigneur, même ça, je ne le veux pas. Je sais qu'il y a un Dieu et que je dois renoncer à telle chose, mais je ne le veux pas. J'ai connu des gens, des hommes et des femmes qui disaient ça, et moi-même, je l'ai dit à certains moments de ma vie. Eh bien, il y a ce texte des Actes des Apôtres qui dit que c'est Dieu qui dépose en nous le vouloir et le faire. Et je crois que même quand on est en face d'une difficulté bien particulière et qu'on a du mal à courber notre cœur devant notre Dieu, on peut lui faire monter cette prière tout de même en disant « Seigneur, donne-moi de vouloir le faire. Donne-moi de vouloir le faire. » Donne-moi de vouloir aimer mon ennemi. Donne-moi de vouloir aimer ma belle-mère. Donne-moi de vouloir aimer mon pasteur. Donne-moi de vouloir renoncer à mon péché. Donne-moi de vouloir, eh bien, te donner toute ma vie. Donne-moi de vouloir te donner plus de temps. Et à partir du moment où je fais monter cette prière vers mon Dieu, eh bien, le Saint-Esprit travaille en moi et vient à bout de mes résistances. La question que je te pose, c'est est-ce que tes intentions, je ne te parle même pas de tes actes, sont à la hauteur de tes mots ? L'apôtre Pierre a pu devenir l'apôtre Pierre quelque part parce qu'il avait des intentions. Il avait un cœur, il avait un élan que Jésus, avec lequel Jésus jouait, mais que Jésus a pu utiliser. Voyez-vous, le fait que Dieu soit un père, ça implique une relation saine et pas simplement une relation. Ésaïe 29, verset 13, le Seigneur dit « Quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres. » Vous connaissez la suite ?« Mais son cœur est éloigné de moi. Et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. » C'est-à-dire que la relation qu'avait le peuple d'Israël à cette époque-là n'était qu'une relation, j'allais dire, théorique, empirique, mais absolument pas empirique. Ce n'était qu'un précepte qui était enseigné de génération en génération. Seigneur, lorsque je m'approche de toi, je veux le faire avec une relation qui soit une relation de qualité. Et pour cela, elle doit reposer sur trois fondements. Vous voulez une relation saine avec Dieu ? Il doit y avoir essentiellement trois fondements. Premièrement, une relation qui est dépourvue d'apparence. On connaît tous ce passage de l'évangile de Luc avec ce pharisien et ce publicain. le premier vivant sur ses apparences, sur le nombre de ses jeûnes, sur la dîme qu'il peut verser, et même un petit peu plus. Et puis sur ce public hein, qui se frappe la poitrine. Et notre culture ADD, vous m'excuserez, notre culture religieuse est bourrée d'apparences. Et la question que l'on peut se poser, c'est de se dire, quelles sont finalement les apparences qui sont en moi et qui me servent pour rendre un culte à mon Dieu ? Quelles sont les apparences qui sont peut-être entre lui et moi ? Et les apparences, ça peut être également les manières de faire qui deviennent en réalité des prisons. Vous savez, ces prières que l'on connaît par cœur et que l'on récite tous les jours un petit peu comme notre Père catholique. Comme un chapelet que l'on égrène. Mon frère, ma sœur, je suis désolé, mais cela, c'est une apparence. Ce que Dieu veut, ce n'est pas une suite de faits, mais ce que Dieu veut, c'est comme le dit le livre des Proverbes, c'est « Ma fille, donne-moi ton cœur. » Et pour avoir une relation saine avec Dieu, la première chose qu'il est nécessaire de lui offrir, c'est notre cœur avec ce qu'il y a dedans. C'est-à-dire avec nos sentiments, avec nos souffrances, avec nos peurs, avec nos craintes, avec nos hontes, avec nos échecs. C'est de lui déposer devant lui, eh bien, véritablement ce qu'il y a de vrai. Ce qu'il y a de vrai en nous. Et nos vies chrétiennes sont parfois bien palottes et bien tristounettes, parce que l'on se contente de parler à Dieu de faits qu'il connaît déjà et qu'il possède déjà. Alors que Dieu aimerait tellement, eh bien, avoir ce qu'il ne possède pas, c'est-à-dire ce qu'il y a à l'intérieur de nos cœurs. Nos souffrances, nos déceptions, nos colères. Et j'aime beaucoup le livre des psaumes parce que eh bien, ce sont vraiment des cœurs à cœur avec Dieu. Et certains me diront, oui, les psaumes, c'est quelque peu récurrent. Oui, c'est vrai. Mais il n'empêche que David, eh bien, il allait constamment au pied de son Dieu pour lui offrir son cœur chaque jour, tel qu'il était, avec ses combats, avec ses souffrances, avec ses haines, avec ses peurs. Et de ce fait, il était l'homme selon le cœur de Dieu, également pour cela, parce qu'il offrait son cœur à Dieu. Alors, sommes-nous publicains ou pharisiens ? Si on se contente d'énoncer des faits, de ce que l'on fait ou de ce que l'on ne fait pas, nous sommes des pharisiens. De manière schématique, parce que j'ai envie d'être un peu provocateur. Et Dieu, quelque part, ne peut pas agir. En revanche, si je deviens publicain, dans la mentalité et dans le fait d'ouvrir mon cœur et de me présenter à lui tel que je suis. Alors je ressors justifié. Et ça, c'est une promesse glorieuse. C'est le premier pilier d'une relation saine, me semble-t-il, avec Dieu. Deuxièmement, c'est la nécessité d'être tout simplement avec mon Dieu. Lorsque j'étais gosse, j'allais marcher avec mon père dans les Pyrénées, avec le sac à dos, pendant quelques jours, à la tente, ça sentait mauvais dans la tente, on mangeait mal. C'était infect, mais on voyait des paysages fabuleux et j'étais avec mon père. Puis chez les comtesses, on ne parle pas beaucoup. Donc on pouvait passer des heures et des heures de marche sans parler. Pas de femme. On ne parle pas. Mais j'étais avec mon père. Et finalement, dans ma relation avec Dieu, qu'est-ce que Dieu veut ? C'est être avec nous. Ce n'est pas d'être dans une relation de donnant-donnant. Je te donne un peu de temps, tu me donnes un peu de bénédiction, amen. Ce n'est pas une relation, ça. C'est du marchandage. Mais ma relation avec mon Père, qui se fait en Jésus, c'est de dire simplement, voilà, je suis avec toi, Seigneur. Je suis avec toi, mon Père. Je suis avec toi, mon ami, c'est théologique. Et c'est là, c'est ça qui compte. Et quelque part, j'ai appris plus de mon père quand il se taisait que quand il parlait. Parce que les émotions parlent. Quand on rentre dans la présence de Dieu, n'y rentrons pas pour recevoir des choses. Je pense que c'est le début, c'est le deuxième pied d'une relation saine. Mais rentrons-y pour être avec notre Père. Pour être au contact de notre Père. Pour être dans les bras de notre Père. Celui qui nous aime. Celui qui est parfait. Et vous savez, ressentir l'amour de quelqu'un, ça guérit beaucoup de blessures. Pour un mari, ressentir l'amour de sa femme, ça guérit beaucoup de blessures. Pour un ami, ressentir l'amitié d'un ami, ça guérit beaucoup de blessures. Même si les mots ne sont pas à la hauteur. Ce qui émane suffit. Troisième pied d'une relation saine avec Dieu, et il va falloir que je me dépêche, c'est de se rendre compte que mon plus grand trésor, ce ne sont pas mes actes, mais que c'est mon cœur. Vous me direz, c'est redondant par rapport au premier point, pas tant que ça. Parce que c'est une question de mentalité. C'est toujours une question de priorité. Pourquoi est-ce que je fais mes actes ? Est-ce que mes actes découlent de l'amour de Dieu ou est-ce que je fais des actes pour être aimé du Père ? Comme un gosse qui fait la vaisselle pour avoir plus d'argent de poche. Non, je fais mes actes parce que j'aime mon Dieu. Et de ce fait, lorsque je rentre dans la présence du Père, avec cette crainte, parce que qui génère automatiquement le désir en moi de créer une relation saine. Alors je vis ce que dit le livre de l'Ecclésiaste. Prends garde à ton pied. Lorsque tu entres dans la maison de Dieu, ou on transpose dans la maison du Père. Approche-toi pour écouter, plutôt que pour offrir le sacrifice des insensés, car ils ne savent pas qu'ils font mal. Ne te presse pas d'ouvrir la bouche, et que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu, car Dieu est au ciel et toi sur la terre. Que dit ce texte de choses en substance ? Il ne nous dit pas de nous taire le dimanche matin, de grâce, mais il nous dit de venir, premièrement, de prendre garde et de veiller à la manière dont on s'approche de Dieu. C'est tout. De veiller avec la mentalité avec laquelle on le fait. On le fait avec sérieux et avec la conscience que Dieu est un Dieu saint, que Dieu est notre Père. Et ne te presse pas. Prends du temps, réfléchis. Passe les choses sur ton cœur. La crainte de Dieu, je conclurai cette deuxième partie, peut-être la globalité, peut-être, n'est pas seulement dans ce qu'il pourrait me faire, ou bien en bien ou en mal, mais la crainte de Dieu s'exerce dans le respect que j'ai pour ce qu'il est. Mais pas simplement dans le respect, dans l'envie d'être avec lui. J'ai une grande souffrance sur mon cœur. C'est que dans le monde chrétien, on recherche Dieu pour ce qui brille. Pour la délivrance, pour la guérison, pour des choses qui ont du clinquant. Pardonnez-moi l'expression, qui ont de la gueule. Qui font du bruit. Mais le souci, c'est que lorsqu'on le ressort de ces lieux, on n'est pas plus proche du Père. La preuve, c'est qu'il faut y retourner. Même si ces choses sont nécessaires. Jésus n'est pas venu pour guérir les malades. Ça vous choque ? Même s'il le fait, hein. Vous le savez, vous me connaissez. Mais il est venu pour réconcilier les hommes avec le Père. Il est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par lui. Alors bien sûr qu'il est nécessaire, eh bien, véritablement, de vivre des délivrances, de vivre des guérisons, de vivre une marque particulière et surnaturelle de la part de Dieu. D'accord. Mais cette marque-là, elle doit nous servir à nous rapprocher du Père. Elle n'est pas gratuite. Ce n'est pas un cadeau qu'on met dans notre poche en disant « Soit, je l'ai vécu !» Non. Ce que je dois rechercher en priorité, c'est la marque du Père. C'est de me rapprocher de mon Dieu. C'est de me rapprocher de mes racines. C'est de me rapprocher de celui qui m'aime, de celui en qui j'ai l'amour. Conclusion, Moïse a craint Dieu. En fait, c'était ma troisième partie. Hébreux 11, 26. Et cette crainte lui a fait faire quoi ? Lui a fait quitter l'Égypte, malgré la peur qu'il avait de Pharaon. Cette crainte l'a fait rentrer dans le plan de Dieu. Et quand je crains Dieu, alors, quand je respecte Dieu, quand j'ai envie d'honorer Dieu, qu'est-ce qui se passe ? Ben, je fais comme Moïse, je n'ai plus peur de Pharaon. Quand je crains Dieu, quand je respecte Dieu, quand j'ai envie d'honorer Dieu par mes actes et par mes pensées, eh bien, je suis un petit peu comme Abraham, je n'hésite pas à offrir eh bien, sur l'autel Isaac, et j'attends, même sans attendre, que l'ange me dise, eh bien, c'est bon, je me suis pourvu, et j'ai vu que tu me craignais. Lorsque j'ai la crainte de Dieu, lorsque j'ai le respect de Dieu, lorsque je ne joue pas avec Dieu, lorsque je ne joue pas avec ses commandements, alors il se passe quelque chose d'assez extraordinaire, c'est que tout simplement, je prends conscience de sa puissance. Et je vis sa puissance. Après l'épisode d'Ananias et de Saphira, qu'est-ce qui se passe ? Des miracles et des prodiges. Et la crainte est au commencement. Le respect et l'honneur de Dieu est au commencement. Alors, où en sommes-nous ? Où en suis-je ? Avec le respect que je dois à mon Dieu. L'admiration que je lui dois par rapport à son œuvre. Vous savez, ce n'est pas un poids de considérer la sainteté de Dieu. Dieu ne nous en met pas plein la vue. Dieu ne va pas dire à Guy, « Hé Guy, je suis saint, je ne vaux rien. » Non. Mais Dieu va lui dire la chose suivante, « Guy, je suis saint, je te rends saint. » C'est ça le processus. Je suis saint. Et l'apôtre Pierre dira, soyez saints, car je suis saint. Et je conclurai ma conclusion ? Si. Et c'est exactement l'œuvre de Jésus à la croix. On y retrouve ces éléments-là. Le Dieu saint qui envoie son Fils mourir saintement sur une croix, puisque toute la puissance de Jésus vient du fait qu'il est resté saint et qu'il a vécu dans la crainte du Père, même à Gethsémané où il a plié sa volonté devant celle du Père. Tiens, Jésus devait respecter le Père. Et toute la force du sacrifice de Jésus vient de quoi ? Du fait qu'il a été obéissant, parce que s'il n'avait pas été obéissant, eh bien il aurait péché, et s'il avait péché, il n'aurait pas été l'agneau de Dieu sans faute, et on serait encore en train d'offrir des sacrifices dans la cour de l'Église. Donc, la puissance du sacrifice de Jésus vient du fait qu'il a craint le Père. Non pas par peur, mais par respect. Et donc, il est mort sur la croix et deux choses découlent. Le fait que son sang nous recouvre et je suis saint. Amen. Vous n'êtes pas saint, vous ? Moi, oui. Aux yeux de Dieu, je suis saint. Je ne dis pas que je suis un saint, quoique... Mais je suis saint, et vous le croyez que vous êtes saint. Si vous êtes recouvert par le sang de Jésus, vous êtes saint. Dieu vous voit sans tache, sans faute, parfait, nickel, chrome, super. À condition qu'il n'y ait pas de péché récurrent que vous aimiez, que vous pratiquiez. Mais ce n'est pas le cas, c'est vrai dans les autres églises, ça, mais pas ici. Et puis la deuxième œuvre de la croix, c'est cette œuvre de libération qui se fait. C'est tout. Parce que Jésus a vécu sans tomber, alors eh bien, il nous donne la possibilité à notre tour d'être vainqueurs de tout ce qui nous aliène. Et ça, c'est parce qu'il a craint Dieu. Allez, j'arrête. Que le Seigneur vous bénisse et vous fasse grâce. Je te bénis, Seigneur, pour ce que tu es. Et ce matin, d'une manière toute particulière, je veux fixer les regards sur toi. Seigneur, je veux me laisser émerveiller, éblouir par ta sainteté. Seigneur, pardon pour toutes les fois où, avec légèreté, j'ai prononcé ton nom. Pardon pour toutes les fois où, avec légèreté, je me suis approché de toi. Seigneur, ce matin, nous voulons considérer le sérieux de notre foi. Seigneur, est-ce qui doit en découler ? Merci de nous avoir, Jésus, réconcilié avec notre Père. Merci d'avoir recréé cette relation avec lui. Seigneur, et nous avons besoin de toi. Continue à le faire. Continue à nous rapprocher de notre Père, au travers du Saint-Esprit, au travers, Seigneur, des soupirs inexprimables qu'il nous fait pousser. Continue, Seigneur mon Dieu, à te servir de nous, Seigneur, afin que nous servions mieux le Père, afin que nous soyons des fils, Seigneur, eh bien, tout simplement plus dignes de notre Père. Fais-nous grâce et étends ta main dans le nom de Jésus. Amen. Voilà, juste quelques annonces.